Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport au cours d'hier? Alors, on me met ici une question, je vais tout de suite y répondre. Mon père, vous avez mis hier l'autonomie et la dépendance au même niveau. Justement, j'ai dit que ce n'était pas le même niveau. Je regrette. Mais l'autonomie n'est-elle pas... Marquez que c'est très bien, parce que si vous l'avez compris comme ça, il faut donc rectifier. Bon. Mais l'autonomie n'est-elle pas le fruit immédiat de la subsistance, qui est la manière d'exister propre à la substance, tandis que la dépendance est une manière d'exister de la substance individuelle, si l'on ne distingue pas, est-elle encore possible de parler de l'âme séparée? Bon, alors, je vous avais dit hier, je reprends, pour que nous comprenions bien et qu'il n'y ait pas d'équivoque. Je vous avais dit que si nous essayons de comprendre comment la philosophie première, dans toute son analyse de philosophie première, s'achève sur le problème de l'homme. Donc, la grande vision première de la découverte de la substance me permet de comprendre que dans l'homme, cette substance, c'est l'âme spirituelle, que cette âme spirituelle subsiste par elle-même, bien que de fait, elle subsiste dans un corps. Elle a quelque chose en elle, donc de tout à fait particulier, qui fait le principe de l'autonomie. Principe d'autonomie dans l'ordre de l'être. Principe de l'autonomie dans l'ordre de la détermination, puisqu'elle est source de toutes les déterminations. Et que l'autonomie provient de la détermination. Donc là, nous sommes en présence de ce que représente cette source d'autonomie propre à l'âme spirituelle. Du fait qu'elle subsiste dans un corps, nous voyons les limitations. C'est ça que je vous avais montré. Et nous voyons la dépendance. C'est pas la dépendance à l'égard de Dieu comme créateur, hein. C'est la dépendance à l'égard du milieu. C'est la dépendance à l'égard du corps parti. Le corps est source de limitations. Et c'est ces limitations que je saisis du fait même que mon âme subsiste dans un corps. Et là, je vois tout de suite que mon autonomie, ben, elle n'est pas parfaite. Elle est conditionnée. Je ne peux pas faire absolument ce que je veux à cause de mon corps. Je suis localisé. Je suis né à telle époque et je suis dans tel lieu. Et ça, c'est le corps. Donc, le point de vue du corps me fait comprendre comment il y a substantiellement des limites à mon autonomie. Et que c'est ce problème de l'autonomie et ce problème des limites proviennent de la même source. C'est pas le même niveau, mais ça provient de la même source. Ça provient de mon âme spirituelle, source d'autonomie. Et dans la mesure où elle assume le corps, elle porte ses limites. Vous voyez, c'est comme ça que j'essaie de comprendre. Alors, la question de l'âme séparée, c'est tout à fait autre chose. Je n'en parle pas en métaphysique de l'âme séparée, parce que je n'en ai aucune expérience. J'ai aucune expérience de mon âme séparée, même quand je dors. Mon âme n'est pas séparée, même quand je dors. L'âme séparée, ça va être le problème de l'immortalité de l'âme, qui va être un problème très important, je suis tout à fait d'accord, un problème extrêmement important, mais qui va être, dont on va pouvoir se poser, on peut déjà se poser le problème, savoir si, de fait, le problème de la limite du corps et le problème de l'autonomie de la substance, qui ne sont pas au même niveau, puisque l'un est absolument essentiel à l'âme spirituelle, et l'autre, c'est de fait, mon âme spirituelle existe de cette manière. C'est le tiesti et le tooti. J'espère que vous voyez tout de suite que c'est très éclairant. Le tiesti, c'est l'essence même de mon âme qui subsiste, qui a cette capacité d'exister par elle-même. Et donc, qu'il est possible qu'elle puisse subsister séparément. Mais je ne peux pas le dire, ça. Je peux simplement me poser la question. Mais je ne peux pas le dire tout de suite. Je le dirai plus tard. Nous le reverrons après. Et le problème des limites qui proviennent de l'individuation, qui proviennent de mon corps. Alors c'est très important de comprendre que le problème de l'autonomie relève de l'âme spirituelle en tant qu'elle subsiste, en tant qu'elle a cette capacité de subsister, donc d'être par soi. Cette âme spirituelle, de fait, alors ça, c'est vraiment le tiesti de l'âme spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'âme spirituelle ? L'âme spirituelle subsiste, c'est-à-dire qu'elle est par elle-même. Tandis que le problème de la question du pose, comment cette âme spirituelle subsiste-t-elle, de fait, le tōti, le pose et le tōti, le fait que je constate, c'est que mon âme spirituelle subsiste dans le corps, et le corps illimité. Il a ses limites, le corps. Le corps est relatif à un tout, qui est l'univers. Alors, cette âme spirituelle subsiste dans le corps, c'est tout ce que nous avions vu dans la recherche de la substance, donc de l'ousia. Nous avions vu que pour l'homme, cette ousia, c'est son âme spirituelle, et cette âme spirituelle, de fait, subsiste dans le corps. Nous avons donc à la fois le problème de l'autonomie et le problème des limites. Il faut bien comprendre que ce problème de l'autonomie et des limites est vécu dans une unité d'être qui provient de l'ousia. C'est vécu dans une unité d'être, mais c'est vécu à deux niveaux très différents. Le niveau de l'autonomie provient de l'âme spirituelle. Il y a une autonomie d'être en moi. C'est très important de bien le saisir. Et il y a en même temps des limites dans mon être qui proviennent de mon corps. Il n'y a pas opposition dialectique entre les deux. Il y a tout simplement deux niveaux différents. C'est tout le problème, et je vous avais souligné, c'est tout le problème de l'individu et le problème de l'autonomie. Ce qui nous fait comprendre comment nous ne pouvons pas opposer personne et individu. Parce que la personne, dans son autonomie première, c'est l'âme spirituelle, c'est la substance qui, de fait, subsiste dans le corps. Et subsistant dans le corps, c'est vraiment son individuation, son caractère individuel. Je suis autonome et je suis en même temps un individu. Je suis autonome dans la détermination de mon être et je suis un individu par mon corps. Donc, on voit tout de suite qu'il y a la même racine d'autonomie et cette racine se prolongeant dans le corps et par le corps va connaître des limites et ces limites, c'est l'individu. J'espère que ça, vous le voyez. C'est la première chose à voir, hein. Ça, c'est la première considération que nous avions vue. Alors, c'est important à bien saisir cette première considération pour assumer ce que les psychologues disent quand ils parlent que la personne et que le moi et que le sentiment du moi est d'abord l'autonomie. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de comprendre le même... J'emploie le même mot, il faudrait peut-être employer un autre mot. Parce que l'autonomie psychologique n'est pas du tout l'autonomie de la substance. L'autonomie psychologique, c'est justement un moi fort qui possède la conscience qu'il est capable de se déterminer par lui-même, sans l'influence des autres. Et donc, c'est au niveau d'une conscience de la détermination. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de l'autonomie ici, au niveau métaphysique, c'est la source des déterminations qui me donne l'autonomie. La source des déterminations, non pas au niveau de l'opération, mais au niveau des déterminations dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de celui qui est. Autrement dit, comprendre que l'ousia est au-delà de toutes les catégories. Quelle est source de toutes les catégories? Et c'est mon âme spirituelle qui, pour moi, est cette racine de mon autonomie au niveau métaphysique. Ça, je crois que ça n'offre pas tellement de difficultés. Ce qui est beaucoup plus délicat, c'est ce que je vous avais montré en second lieu. C'est l'application de toute la métaphysique, de la découverte de l'être en art et en puissance, que je dois essayer de comprendre par rapport à l'homme. C'est toujours l'homme que je cherche. Philosophie de l'homme qui implique philosophie du corps. Et la philosophie du corps se fait à partir de la philosophie de l'âme. Il faut bien comprendre ça. Je ne peux pas saisir, au point de vue philosophique, ce qu'est le corps humain sans saisir son âme. Je ne peux pas saisir mon autonomie fondamentale sans saisir mon âme spirituelle. Oui, l'esprit est déjà présent ici, puisque c'est l'âme spirituelle. Et c'est cela qui me donne cette autonomie radicale. Alors, le problème de la séparation de l'âme, c'est un problème qu'on verra ensuite. J'essaie d'abord de comprendre l'homme tel qu'il m'est donné. Or, je n'ai jamais expérimenté l'âme séparée, du moins personnellement. Si vous, vous l'avez expérimenté, je vous ai dit, dites-le-moi, ça m'intéresse. On verra si c'est un rêve très beau, n'est-ce pas ? On peut très bien, dans un rêve, rencontrer des âmes séparées. Mais alors, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un cauchemar, n'est-ce pas ? Vous avez rencontré celui qui vous en voulait depuis longtemps et vous le rencontrez comme une âme séparée. C'est possible, mais c'est un rêve. Alors, je ne le traite pas ici philosophiquement. Ici, j'essaie de comprendre l'application à l'homme de la philosophie de l'art et de la puissance. Et je vois que je retrouve ici cette chose très importante, que l'homme, parce qu'il est esprit, a la possibilité d'être finalisé par le bien. C'est tout le problème du bonheur. Et ceci fait partie de la métaphysique de l'homme. Je peux traiter du bonheur du point de vue éthique, mais je dois, et c'est ce que je fais ici, je dois en montrer son fondement en philosophie première, en métaphysique. Et le fondement de toute l'éthique, c'est justement que l'homme étant esprit a cet ordre vers le bien. Il est finalisé par le bien. Il est ordonné vers le bien. Donc il n'est parfaitement lui-même que dans la mesure où il atteint ce bien. Dans la mesure, je ne dis pas où il s'identifie à ce bien, mais dans la mesure où il l'atteint. Dans la mesure où il l'atteint par le point de vue du bonheur, parce que c'est par le bonheur. Vous voyez le problème de l'entelekeia et le problème de l'energeia. L'entelekeia, c'est le bonheur, et l'energeia, c'est le bien. Et ici, nous voyons que les deux sont intimement liés. C'est par mon opération volontaire que je suis bienheureux. Une opération volontaire ordonnée vers le bien qui, de fait, je regarde l'éthique, c'est bien le problème de l'amour d'amitié. C'est par l'amour d'amitié que je rejoins mon bien. Ce bien, c'est une autre personne. Ça, c'est très important à bien noter. C'est une autre personne. C'est en me reliant à une autre personne humaine et en me laissant finaliser par cette personne humaine que je suis bienheureux, que j'atteins un certain bonheur et que je découvre ce qu'est mon bien et que je m'actualise. L'esprit demande d'être actualisé par l'amour et par un amour réciproque qui est l'amour d'amitié. C'est par là que, de fait, l'homme qui implique l'esprit, va être finalisé, va être dans un état de plénitude, de perfection. Il atteint son bien. Vous voyez que tout de suite ici, si je compare avec le point de vue de la psychologie d'Audier, puisque Audier définissait la personne, vous vous souvenez bien, les trois sentiments du moi, l'autonomie, la sécurité, la valorisation. Toujours se rappeler ça, comme fond. C'est quelque chose d'acquis, si vous voulez. C'est une donnée psychologique intéressante qui nous fait comprendre comment la personne au niveau psychologique se construit toujours à travers ces trois directions. Bon, l'autonomie, c'est facile de comprendre que je réponds ou j'assume ce que le psychologue, ce que les psychologues disent en comprenant ce que c'est que l'âme spirituelle, ce que les psychologues ne peuvent pas parler. La psychologie ne parle pas de l'âme spirituelle. La psychologie ne parle pas de l'esprit. Il ne faut jamais l'oublier. Quand vous avez des psychologues qui ne comprennent pas l'esprit, il faut leur essayer de leur faire comprendre ce que c'est. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'ils ne rencontrent pas l'esprit par la méthode psychologique. Tandis qu'au contraire, par une méthode métaphysique, par une recherche métaphysique, nous découvrons ce qu'est l'esprit. Et nous le découvrons à partir du bien et du vrai. C'est le bien qui me fait découvrir ce que c'est que l'esprit. Remarquez que j'ai déjà découvert en éthique, c'est sûr. J'ai déjà découvert par le problème de l'amour d'amitié, mais je le découvre ici d'une façon beaucoup plus profonde. Je découvre comment l'homme est ordonné vers le bien, que l'homme est capable de se dépasser. C'est là le propre de l'esprit. La vie est immanente. L'esprit permet la transcendance. Seul l'esprit permet de se dépasser par la connaissance et par l'amour spirituel. Tandis qu'au niveau vital, au niveau passionnel, au niveau psychologique, il n'y a pas de dépassement. Le vivant ne se dépasse pas. Le vivant n'a qu'un seul désir, c'est de survivre. Et donc de continuer de vivre. Et pour lui, c'est sa grande finalité, c'est de survivre. C'est que l'individu soit remplacé par un autre individu. Vous n'avez qu'à demander à l'éléphant quelle est sa finalité. C'est de survivre dans un autre éléphant, tout simplement. Et de faire que par là, l'espèce demeure. Mais il n'a aucun désir de dépassement. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'éléphant? Pour l'éléphant, rien. Absolument rien. Pour le vivant, il n'y a rien en dehors du vivant. Très très important de comprendre ça. Seul l'esprit peut vraiment connaître un dépassement. Et donc, ce n'est qu'au moment où on saisit le propre d'un dépassement qu'on saisit ce que c'est que le point de vue spirituel. Tant qu'on n'a pas saisi ça, on ne saisit pas ce que c'est que le point de vue spirituel. Le dépassement, il est d'abord, en premier lieu, à ce niveau du bien. C'est l'amour spirituel à l'égard d'une personne qui me permet de comprendre le dépassement actuel de ma propre personne. C'est par l'amour que je me dépasse. C'est par l'amour que je suis capable de regarder l'autre et de regarder l'autre pour lui-même. C'est-à-dire de regarder l'ami comme mon bien, pour lui-même. Alors à ce moment-là, il y a un dépassement de ce que représente le point de vue de l'homme du point de vue de sa vie. Alors, vous comprenez tout de suite le problème qui va se poser ici. Si je fais la comparaison avec les dimensions ou le moi, les sentiments du moi au niveau psychologique. Est-ce que l'esprit, l'homme spirituel, en tant qu'il est tendu vers le bien, en tant qu'il aime une autre personne humaine, que représente pour lui cette dimension? Je crois qu'on peut dire que c'est la dimension de la valorisation. Vous comprenez bien toute la différence. La valorisation au niveau psychologique, c'est au niveau du conditionnement de nos opérations vitales. C'est par rapport au passé. je suis heureux de voir que je ne suis pas plus bête que les autres et que j'arrive quand même à faire quelque chose de bien. Moi, je me valorise de cette manière-là. Et la valorisation consiste à voir, justement, à lutter contre le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité, ce sont ces crevasses qui sont en moi et qui me montrent que, de fait, il y a des tas de blessures en moi, des tas de crevasses qui fait que je n'arrive pas à me dépasser. C'est ça le propre de la culpabilité. La culpabilité vous inhibe complètement en vous-même. Je crois que c'est la culpabilité qui nous inhibe le plus en nous et qui nous met dans l'impasse, dans l'incapacité de dépassement. Alors, on comprend comment la conquête du moi personnel dans le sentiment de valorisation me permet d'être victorieux de ce sentiment de culpabilité. Mais cette valorisation que je constate au niveau psychologique, je peux essayer d'en comprendre toute sa signification. Et je ne comprends la signification profonde de la valorisation qu'au niveau métaphysique, quand je comprends comment l'homme est capable d'aimer un autre homme. Quand il est capable de créer avec lui un lien d'amour, d'amitié. C'est l'amour d'amitié qui est source de valorisation. Et un amour d'amitié qui soit vrai, pas un amour d'amitié de jouissance, pas un amour d'amitié d'utilité, parce que là, il n'y a pas de dépassement. Donnant, donnant. Donc, il n'y a pas de dépassement. Un amour d'amitié qui se porte sur la personne humaine en tant qu'elle est mon bien, en tant qu'elle est justement ce qui me finalise. En tant que j'aime l'autre, parce que c'est l'autre, en tant que j'aime l'autre pour lui-même, au-delà de l'amour que j'ai de moi, je ne l'aime pas parce qu'il m'aime, ce serait encore l'immanence. Je l'aime parce qu'il est mon bien et qu'il est une personne humaine, spirituelle, que j'aime pour lui-même. Alors là, je constate comment, de fait, il y a un dépassement profond en moi qui se fait par cet amour d'amitié. Et c'est cet amour d'amitié qui est source de la valorisation. Vous voyez ? Voilà comment la métaphysique apporte à la psychologie ce que la psychologie ne peut pas dire. Il ne faut pas lui demander ce qu'elle ne peut pas dire. Il ne faut pas accuser la psychologie de ne pas le dire. Elle ne peut pas le dire. Sa méthode ne permet pas de le dire. Mais on apporte une nouvelle lumière parce qu'on fait comprendre comment je puis me valoriser. Qu'est-ce qui me valorise ? C'est en me finalisant que je me valorise. Donc c'est l'amour actuel qui est dans mon corps actuellement qui me donne ce sentiment de valorisation. Alors, je peux aller un peu plus loin. Ici, c'est la seconde dimension. J'essaie d'assumer comme ça, pour montrer comment ce que le psychologue dit sur les sentiments du moi, je les retrouve au point de vue métaphysique, mais je les retrouve d'une manière tout à fait différente. Je ne les retrouve pas au niveau de ma conscience, je les retrouve au niveau de mon être. Et c'est ça qui est important. Donc je les retrouve dans une objectivité absolue. L'objectivité de la substance, l'objectivité du bien. Mais je vois qu'en effet, c'est très vrai, il y a une correspondance. Curieux, c'est très très intéressant de voir ça. Parce qu'il est bien évident que quand Charles Audier donnait les trois sentiments du moi, il ne pensait absolument pas à la métaphysique. Et c'est très curieux que quand nous essayons de structurer une métaphysique et de faire l'application de la métaphysique par rapport au moi, nous ne pensons pas à la psychologie. Mais ça se rencontre. Alors ça, c'est très important de voir ces rencontres. Parce que ça confirme, ça montre bien que ce que Charles Audier dit sur les trois sentiments du moi, c'est vrai, c'est la structure des trois sentiments du moi. Mais nous ne pouvons pas rester là, nous devons aller plus loin pour saisir comment l'homme est capable d'être finalisé. Et que c'est en se finalisant qu'il se valorise. C'est très beau de voir ça, du reste. Vous voyez, ce serait peut-être le moyen de faire entrer dans la finalité des gens qui sont uniquement pris par la psychologie. Vous comprenez la grandeur de la valorisation. Comment pouvez-vous vous valoriser? La finalité n'est pas autre chose que se valoriser soi-même. En étant finalisé, et plus je suis finalisé, plus je me valorise. Il n'y a pas moyen autrement. Cherchez bien, vous ne trouverez pas d'autre moyen de vous valoriser. Alors toutes les crevasses de la culpabilité proviennent des non-finalisations. Tout ce qui en moi n'est pas finalisé est une attente de culpabilité. Tout ce qui en moi n'est pas finalisé. Ça peut devenir très très facilement un moment de culpabilité. Pas nécessairement. Hein. Je n'identifie pas la culpabilité psychologique à la puissance. Mais je dis que la potentialité qui est en moi et qui n'est pas finalisée peut devenir pour moi source de culpabilité. Alors vous allez me dire comment ça se fait, ce passage entre la puissance et la culpabilité. Ça, c'est en psychologie. Je montre le fondement de la culpabilité qui est en moi. Il y a un fondement de culpabilité qui est en moi, c'est ma potentialité. Et plus je me finalise, plus je me valorise. Et plus, par le fait même, la limite de la culpabilité s'éloigne. C'est merveilleux de comprendre ça. Parce que ça, c'est de cette manière-là, on se structure au point de vue de sa propre personne. On comprend comment, progressivement, nous pouvons faire que si nous avions un tempérament particulièrement sensible à la culpabilité, il y a des gens qui sont très sensibles à la culpabilité, il y en a qui ne sont pas du tout sensibles, il faut leur marcher sur les pieds plusieurs fois avant qu'ils comprennent que peut-être il peut y avoir une culpabilité chez eux, en montrant qu'ils ont fait des dégâts chez le voisin. Ils n'en ont pas aperçu, c'est chez le voisin. C'est comme l'hippopotame, il fait des dégâts chez le voisin, mais jamais chez lui. N'est-ce pas? Alors il fait des dégâts chez le voisin. Alors à ce moment-là, on n'a aucune culpabilité. Parce que c'est chez le voisin qui en sort de là. Vous voyez, le grand brigand, c'est ça. Pas de culpabilité, je vous affirme. Sûrement pas, parce qu'autrement, il ne pourrait pas. Mais il continue. Et alors tout d'un coup, ça peut devenir de la culpabilité. C'est très curieux. Petite secousse. Parce que sa construction ne s'est pas faite sur la finalité, elle s'est faite sur un faux bien. Et quand on se construit sur un bien qui n'est pas un véritable bien, quand vous vous construisez par exemple votre personnalité sur la gloire, on pourrait dire ça. On verra ça après, hein. Mais je le dis tout de suite maintenant, mais on le verra après. Je construis ma personnalité sur la gloire, en disant, ah, moi j'ai un sentiment de la gloire, je cherche la gloire. Il faut à tout prix que dans ma vie, quand même, à 45 ans, j'arrive à la gloire. Je soigne mon image, vous voyez, comme disent les professeurs. Je soigne mon image. Je soigne mon image, c'est soigner sa gloire. Eh bien, à un moment donné, ça peut craquer, parce que c'est un faux bien. Et donc, ça ne construit pas ma personnalité. C'est un jeu de cartes. Alors, ça ne construit pas ma personnalité. Si ça ne construit pas ma personnalité, pendant un certain temps, ça peut tenir. Ça, c'est très mystérieux. Pendant un certain temps, ça peut tenir. Et puis, tout d'un coup de baguette magique, ça dégringole. On ne sait pas pourquoi. Alors, c'est la potentialité qui, à ce moment-là, se transforme en moi en culpabilité. C'est peut-être un coup de grâce. Peut-être un coup de grâce. Parce que celui qui cherche sa finalité dans la gloire, c'est pas fameux. Ça ne va pas très loin. Alors ça peut être un coup de grâce. Et on dira ça dans le but chrétien. Ah, il a reçu un coup de bambou du Saint-Esprit. Et le coup de bambou du Saint-Esprit fait que tout ce château de cartes de sa gloire a dégringolé d'un seul coup. Alors il s'est vu, à ce moment-là, dans une espèce de nudité très très grande au niveau de sa propre personne. Il n'y avait rien de construit. Tandis que si je cherche un véritable bien, ce qui est vraiment mon bien, alors ma finalité peut se nourrir. Et elle construit en moi cette capacité d'être une personne humaine qui a une véritable valeur. et sa valeur provient de sa finalité. Je ne peux aimer qu'en connaissant. Il y a toujours dans l'amour d'amitié le problème de la connaissance. Le problème de la connaissance, le problème de l'intelligence. Alors là, il y a un très grand problème qui va se poser, qui est très important, c'est de comprendre que l'amour d'amitié n'est pas déterminé par la connaissance que j'ai de mon ami. L'amour d'amitié n'est pas déterminé par la connaissance de la personne humaine que j'aime. L'amour d'amitié est déterminé par le bien. C'est le bien qui finalise, c'est pas la connaissance. Alors là, je crois que je l'ai déjà dit, c'est une chose très importante au point de vue philosophique à bien comprendre. C'est très très important, parce que je crois que des quantités d'amour disparaissent à cause de ça. Ah, j'ai aimé cette personne et puis je me suis aperçu que c'était une fripouille. Oui. Alors, est-ce que vous l'avez vraiment aimé? Parce que si vous l'aviez vraiment aimé, vous n'apercevriez jamais que c'est une fripouille. Ah, ça, c'est terrible. Si vous avez aimé une personne humaine, vraiment, vous ne pouvez pas dire que c'est une fripouille. Vous devez arriver à dire, j'ai aimé cette personne, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus de défauts que je ne le pensais, je continue de l'aimer. Vous dites, ah, ça c'est héroïque. L'amour est héroïque. Autrement, c'est pas l'amour. Si vous croyez que l'amour est petit bourgeois, alors à ce moment-là, non, non. C'est impossible, c'est plus l'amour. C'est le ronron du chat auprès du feu, petit bourgeois. Alors c'est ça, c'est pas du tout l'amour. L'amour, c'est un lien avec une personne. Si je m'aperçois que dans cette personne, il y a des crevasses, parce qu'il y avait quelque chose de très beau, de très grand, je l'aime, puis je m'aperçois qu'il y a des limites. Ça doit normalement être pour moi une occasion d'aller plus loin dans mon amour, si je veux sauver mon amour. Oui, ça c'est héroïque. Mais c'est ça l'amour. Tandis que si vous dites, et c'est ce que vous entendez tout le temps, et c'est ce que vous voyez dans tous les romans, il faut en lire de temps en temps, n'est-ce pas, pour comprendre la métaphysique. Alors, vous voyez ça, non, mais c'est tout le temps comme ça. Je me suis trompé, c'est pas ça du tout. Il y avait derrière des choses. Alors, c'est autre chose, l'erreur sur la personne, hein, comme disent les canonistes. L'erreur sur la personne, c'est très très différent. Parce que c'est vraiment la personne qui avait menti. Qui avait... Alors c'est très différent, c'est très très différent. La personne qui s'était donné un visage faux, et puis tout d'un coup je m'aperçois de la réalité. Alors à ce moment-là, c'est plus la personne que j'ai aimé. J'ai aimé un masque bien verni et qui apparaissait de telle manière. Ça c'est très très différent. Mais quand j'ai vraiment aimé une personne, l'amour de cette personne n'est pas mesuré par les qualités de cette personne et par la connaissance des qualités de cette personne. C'est la personne elle-même qui mesure mon amour. Et la connaissance que j'ai de cette personne est uniquement une condition sine qua non. Ce n'est pas une détermination. Mon amour n'est pas déterminé par la connaissance que j'ai de la personne. Ça, c'est très, très important à comprendre. Mais c'est ça seulement qui nous fait comprendre l'absolu de l'amour. Rien ne mesure l'amour que l'amour. Quand c'est un amour véritable, quand c'est un amour spirituel, rien ne mesure l'amour que l'amour lui-même. La fameuse parole de Saint Bernard. C'est vrai au plan philosophique. C'est vrai au plan philosophique. Un philosophe qui n'arrive pas à découvrir ça, ça prouve qu'il n'a pas découvert la finalité. Ça prouve qu'il n'a pas découvert ce que c'est que le bien. Et qu'il reste encore dans une cérébralisation, qui reste encore dans le primat de la connaissance. Le primat de la connaissance, c'est très très bien en mathématiques. Il vaut mieux connaître les mathématiques que les aimer. Ça, c'est mieux. Il vaut mieux les connaître. Il vaut mieux être fort en mathématiques, être très fort en mathématiques, que dire, moi, je les aime beaucoup, mais j'en dis, je connais rien, vous savez rien, je les aime beaucoup. Parce que c'est les mathématiques de mon mari. Alors, c'est pour ça. Alors, je les aime beaucoup. Mais vous comprenez très bien qu'à ce moment-là, c'est pas du tout ce qui est vraiment le point de vue de la connaissance. La connaissance, dans l'ordre mathématique, prime. En métaphysique, la connaissance prime. Elle prime. Pour la science métaphysique. Mais la métaphysique est ordonnée à l'homme. Et donc la métaphysique reconnaît qu'au-delà de la connaissance par rapport à l'homme, il y a l'amour de l'homme. Et l'amour de l'homme va plus loin que la connaissance de l'homme. Ça, c'est très très important. La métaphysique est pour l'homme et non pas l'homme pour la métaphysique. Vous voyez, c'est ce problème-là que nous touchons là. Et là, nous voyons comment il y a la possibilité d'un dépassement dans l'ordre de l'amour. L'amour d'amitié. Mais cet amour d'amitié présuppose une connaissance. Il y a toujours une connaissance. Alors, c'est là où le problème nouveau va se poser. L'esprit, il est non seulement capacité d'aimer, mais il est capacité de connaître. Et la connaissance est ordonnée vers le vrai. Alors, y a-t-il là une autre finalité? C'est la question, savoir. Y a-t-il là une autre finalité? Est-ce qu'il y a deux finalités? Une première finalité, l'homme, une seconde finalité, la vérité. Je suis persuadé que si je vous posais la question, que vous demandais de l'écrire, j'aurais des réponses extrêmement variées. J'en suis sûr. Parce que ce n'est pas si commode que ça d'y répondre. Est-ce que l'intelligence est ordonnée vers le vrai? Le bien de l'intelligence, c'est le vrai. Le bien de l'intelligence, mais pas le bien de l'homme. Alors vous allez me dire, c'est effrayant, vous relativisez la vérité en disant ça. Alors vous relativisez la vérité, et en relativisant la vérité, par le fait même, vous tombez dans la position vérité relative, vérité d'aujourd'hui, vérité de demain, et ainsi de suite. Donc, c'est relativiser la vérité. C'est pas si commode, vous voyez. Et dire que la vérité est une autre finalité, alors à ce moment-là, vous mettez la connaissance avant l'amour. Et alors, vous supprimez l'amour. Vous voyez le dilemme cornélien au plan métaphysique, hein? C'est un dilemme terrible, ça. Est-ce que je dois maintenir l'absolu de la vérité? Est-ce que je dois maintenir l'absolu de l'amour? Bien, je dois maintenir ces deux absolus, mais pas ces deux finalités. C'est différent. C'est différent. Il faut bien comprendre la différence. Il y a une seule finalité, l'amour de l'homme. L'amour de l'homme finalise l'homme. Au niveau métaphysique, hein, comprenons bien. Au niveau métaphysique. Au niveau où nous nous situons actuellement. Parce que même au niveau métaphysique, on verra qu'il y a un dépassement de l'amour de l'homme que je peux comprendre au niveau métaphysique, c'est l'adoration à l'égard du Créateur. L'homme se dépasse en adorant le Créateur. Mais il faut découvrir le mystère de l'être premier que nous appelons Dieu. Alors à ce moment-là, je ne relativise pas l'amour humain, mais je comprends que l'amour humain est dépassé par un autre amour. Mais là, la finalité, c'est toujours une personne. La finalité regarde une personne. La finalité ne regarde pas la vérité. La vérité n'est pas une personne. Il n'y a que Dieu qui peut dire qu'il est la vérité. Il n'y a que Dieu. Je n'ai pas le droit de dire « je suis la vérité ». Tandis que j'ai le droit de dire « je suis une personne humaine ». Donc capable d'être aimé. Je peux le dire ça. Mais je ne peux pas dire « je suis la vérité ». Il n'y a que Dieu. La vérité n'est personnelle qu'en Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est l'être premier. Alors en lui, le point de vue de la connaissance et le point de vue de l'être ne font qu'un. En lui, le point de vue de la vérité et le point de vue de la bonté ne font qu'un. Donc, la finalité regarde une personne. Elle regarde le bien. Et le bien, c'est une personne. Ça, c'est très important. On essaiera d'y revenir pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la personne humaine, hein. Je dis ici que le bien, c'est une personne. Le bien spirituel est une personne. Le bien absolu est une personne. Et seule la personne peut être un bien absolu. Que cette personne soit une personne humaine ou une personne au-delà de la personne humaine, Dieu, c'est toujours une personne. Tandis que la vérité n'est pas toujours une personne. Seule la personne divine peut dire quelle est la vérité. La vérité n'est pas toujours une personne. La vérité est le bien de l'intelligence. Et le bien de l'intelligence n'est pas le bien de l'homme, au sens absolu. C'est un bien particulier. C'est un bien limité. Mais un bien limité qui a ce, au point de vue, bien. Il est limité comme bien. Et il est absolu du côté de l'intelligence. C'est l'absolu de l'intelligence. C'est pour ça qu'il y a un absolu dans la vérité. Il ne faut pas relativiser la vérité. Mais il faut comprendre que la vérité est le bien de l'intelligence. Elle est l'absolu pour l'intelligence. Je ne peux rien aller au-delà de la vérité dans l'ordre de l'intelligence. Et donc, elle finalise bien l'intelligence, mais elle ne finalise pas l'homme. L'homme intelligent. Alors, c'est là où je comprends comment cette nouvelle dimension très importante, l'esprit qui cherche le vrai, l'esprit qui désire atteindre le vrai, cette troisième dimension, autonomie, la capacité d'aimer, la capacité d'atteindre le point de vue de la vérité par l'intelligence, me met en présence d'une dimension absolue. Il y a trois dimensions absolues dans la personne. L'autonomie, la capacité d'aimer, la recherche de la vérité. Et ces trois dimensions absolues, puisque la recherche de la vérité, dans la mesure où je suis capable d'atteindre la vérité, il y a quelque chose d'absolu pour mon intelligence. Il y a le bien de mon intelligence. Mais ce bien de mon intelligence, c'est pas le bien de l'homme. Et c'est pour ça que ce bien de l'intelligence est au service de l'amour. C'est au service de l'amour. Il est au service de l'amour quand il s'agit d'aimer une personne humaine. Il est au service de l'amour quand il s'agit d'adorer. Il est au service de l'amour quand il s'agit de contempler. La vérité peut être, vous voyez, bien qu'elle est un absolu, elle peut être mise au service de ce triple amour. L'amour à l'égard de l'homme, l'amour à l'égard de Dieu dans l'adoration du Créateur, et l'amour de Dieu dans la contemplation. Alors, il faut comprendre que cette troisième dimension va me permettre d'assumer ce que les psychologues appellent la sécurité. Ça peut vous sembler très curieux, et c'est pourtant très important. Le sentiment de sécurité, il se fonde dans la vérité. C'est dans la mesure où vous atteignez la vérité que vous avez un sentiment de sécurité. Et dans la mesure où vous n'atteignez pas la vérité, vous tombez dans l'angoisse. Pourquoi le monde d'aujourd'hui est-il si angoissé? C'est qu'il a abandonné la recherche de la vérité. Un monde qui ne recherche plus la vérité, un monde qui ne cherche que les opinions, est un monde qui est voué à l'angoisse. Et ça, c'est un très beau programme politique. C'est un monde qui est voué à l'angoisse. Les petits-fils grinceront des dents. Parce que peut-être que ceux qui actuellement ont un certain âge et qui ont quand même cherché la vérité, parce qu'ils ont été soutenus par ceux qui étaient autour, s'ils ne recherchent plus la vérité, eh bien ils tomberont dans l'angoisse. Parce que c'est dans la mesure où je recherche la vérité que j'ai une sécurité. Vous en faites l'expérience très simple. Dans certains secteurs, c'est dans la mesure Donc, dans la mesure où, de fait, il y a saisie d'une certaine vérité, qu'il y a une sécurité en nous. Vous voyez, on fait très nettement cette expérience que dans tous les domaines où on n'a pas possibilité d'atteindre la vérité, qu'on reste dans l'ordre de l'opinion, on est dépendant des autres. Donc on n'a aucune sécurité. Ça me semble assez net et on peut facilement le comprendre. Et que c'est dans la mesure où l'intelligence, source d'autonomie au niveau de notre vie, c'est l'intelligence qui est source d'autonomie au niveau de notre vie. C'est dans la mesure où l'intelligence se développe et arrive à se développer pour elle-même que, de fait, on acquiert une certaine autonomie. Bon. Alors, vous avez les trois dimensions. Nous continuerons après pour essayer de mieux saisir. Alors, dans la mesure où vous ne saisissez pas, notez-le parce que c'est un problème très important et très vital pour nous, ce problème de la personne.